Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Un projet de loi pour une école de la confiance qui suscite beaucoup de défiance. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être dans ce studio. Et tout d'abord, une question. Pourquoi ce projet de loi suscite-t-il autant de défiance? Je dois dire que c'est l'une des premières fois que ça m'arrive. J'ai reçu énormément de mails de professeurs inquiets, mécontents, sur mon mail de Radio France. Comment expliquez-vous ce phénomène?
Je pense que nous sommes dans une société de défiance. Et c'est pour cela que j'ai parlé d'école de la confiance. Je pense que si notre société française est caractérisée par toute une série de défiances, on ne se fait pas suffisamment confiance. Et c'est un signe des difficultés dans lesquelles nous sommes. Et si j'ai parlé d'école de la confiance depuis le début, c'est précisément parce que je pense que nous avons besoin d'une matrice de confiance qui passe par l'école. Alors maintenant, le projet de loi est lui-même entré dans le type de critique et de querelle qu'il y a très souvent quand il y a une loi. Je voudrais pas qu'on perde l'importance de ce mot confiance.
Justement, si vous deviez résumer sa philosophie, Jean-Michel Blanquer.
La philosophie, c'est la philosophie générale de ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire premièrement, un, assurer la justice sociale, deux, élever le niveau général. Dans un ordre ou dans l'autre, l'un va avec l'autre. Quand on divise les classes de CP ou de CE1 par 2 en REP et REP plus, on fait de la justice sociale, bien évidemment, et ce faisant, on élève le niveau général. Aujourd'hui, on a plus de 20% des élèves qui sortent de l'école primaire sans bien maîtriser les savoirs fondamentaux. Le cœur de ma politique, c'est la priorité à l'école primaire et faire en sorte que 100% des élèves sortent avec ces savoirs consolidés. Ça suppose toute une série d'évolutions qui peuvent avoir lieu sans la loi. C'est ce que j'ai fait depuis presque 2 ans maintenant, la mesure que je viens de citer, mais d'autres, comme par exemple devoir fait au collège, qui est aussi une mesure de justice sociale au service de l'élévation du niveau général. Et puis la réforme du lycée, bien entendu, qui, elle aussi, ne nécessitait pas de passer par la loi et qui, elle, contribue à personnaliser les parcours et à donner sa chance à chacun, notamment en faisant qu'en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat.
Vous dites...
Maintenant, le système éducatif est fait de telle façon qu'il y a des sujets qui relèvent de la loi et d'autres qui ne relèvent pas de la loi. Donc au bout de 2 ans, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains sujets qui devaient nécessairement passer par la loi. C'est le cas notamment de l'instruction obligatoire à 3 ans, qui est aussi une mesure de justice sociale profondément. Ça ramène 25 000 enfants à l'école maternelle qui n'y allaient pas. C'est la question de la formation des professeurs qui doit franchir encore un cran en qualité. C'est ce que nous voulons. Et si vous voulez, chacune des mesures de la loi est d'abord et avant tout sociale. C'est cela qui est un petit peu étrange dans la situation. C'est que
pourtant, c'est une loi qui n'est pas du tout perçue comme sociale. Elle est considérée comme étant de droite, ce qui est tout à fait légitime.
Non, mais elle ne l'est pas.
Pourquoi ne pas l'assumer ?
C'est une loi profondément sociale. Et j'affirmerai que c'est une des lois les plus sociales sur l'éducation depuis au moins une vingtaine d'années.
Bon, alors prenons un exemple, Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre.
Oui.
L'éducation avant 3 ans, par exemple.
Non, à 3 ans, oui.
Oui, mais lorsque l'on scolarise de jeunes enfants, dont certains ne sont pas encore propres, eh bien là, il y a un problème, par exemple, pour la cohésion de l'équipe enseignante et donc pour tous les enfants. Ceux-ci étaient des enseignants et ils vont aussi devoir assumer le travail, par exemple, de ceux qui aujourd'hui sont dans des crèches. Est-ce que là, il ne s'agit pas d'une régression que de transformer des écoles en crèches ?
Non, pas du tout. D'abord, l'esprit de sur ce sujet, c'est instruction obligatoire à 3 ans, ça signifie que de 3 à 6 ans, des enfants qui jusqu'à présent n'allaient pas à la maternelle vont y venir. Ça signifie ça et rien de plus. Après, il y a une série de conséquences. Par exemple, nous allons faire la visite obligatoire médicale à 3 et 4 ans et nous allons tendre vers 100% pour tous les enfants, alors qu'aujourd'hui, c'est 40% pour les enfants de 6 ans. Donc, si vous voulez, ça, typiquement, le repérage des difficultés de santé des enfants, l'ouïe, l'œil, toutes ces
sujets-là... Vous n'avez pas répondu à ma question,
monsieur le ministre. Non, je viens parce que le cœur de la loi, c'est ce que je viens de vous répondre. Ce que vous avez dit, c'est autre chose. C'est l'ouverture à des enfants de moins de 3 ans. Nous ne faisons rien de particulier au sujet de la loi. D'ailleurs, certains, parfois, disent qu'on veut en finir avec la scolarisation avant 3 ans, et nous le reproche. Et là, ce que vous venez de dire, c'était le reproche presque inverse. En réalité, sur ce sujet-là, on ne fait rien de particulier, si ce n'est de continuer les pratiques qui existent déjà, c'est-à-dire pour un petit pourcentage d'enfants, ils viennent à l'école avant 3 ans, et c'est en général entre les parents et la direction de l'école que ça se joue. Et c'est vrai que ça peut être une mesure, quand c'est bien fait, de justice sociale, dans la mesure aussi, avec la commune, il y a une coopération pour qu'il y ait des personnels spécialisés pour aider les enseignants dans cela. C'est ce qu'on appelle la très petite section. Mais sur ce point de la très petite section, à 2 ans, la loi ne change strictement rien. Ce qui change, c'est encore une fois, c'est de ramener 25 000 enfants à l'école maternelle.
Les conséquences du dédoublement des classes. Là aussi, il y a de nombreuses polémiques au sujet de l'évaluation. Semble-t-il, les effets qui sont aujourd'hui observables, parce que ça a vraiment été une mesure phare pour votre ministère et aussi pour le gouvernement. Or, on s'aperçoit que finalement, les résultats sont en demi-teinte. Était-ce véritablement une bonne mesure? Est-ce qu'elle a été préparée avec suffisamment d'accompagnement et de formation pour les professeurs qui, aujourd'hui, sont en poste pour assurer le dédoublement de ces classes, Jean-Michel Blanquer?
Oui, c'est une mesure extrêmement importante. Elle touche 180 000 élèves aujourd'hui. Elle en touchera 300 000 à la rentrée prochaine. Elle a été faite sur des bases scientifiques, hein, puisqu'il y avait auparavant une série d'expérimentations à plus petite échelle qui nous montraient que ça pouvait être efficace. C'est une mesure qui a nécessité des moyens, évidemment. Nous les avons mis. C'est une mesure qui donne évidemment ses fruits sur la durée. Donc la première évaluation que nous avons faite, elle est très intéressante. Parce que on peut considérer qu'elle est en demi-teinte en moyenne, au sens où on n'a pas amené encore tous les élèves à progresser. Mais on a évidemment, quand on compare des élèves qui bénéficient du dispositif à des élèves qui n'en bénéficient pas, on voit qu'on a réussi à réduire l'écart entre les zones défavorisées et les zones favorisées.
J'ai noté une augmentation des résultats de 9 à 12% pour une augmentation des effectifs à peu près comparable. C'est bien, mais ça veut dire que c'est...
Non mais, attendez, si je finis le raisonnement, ce que vous dites est vrai, mais les deux choses qu'il faut dire immédiatement après, c'est premièrement, ceci est une moyenne. Quand on regarde ensuite là où il y a eu des changements pédagogiques profonds, alors les résultats sont spectaculaires. Et donc ça nous montre bien la voie à suivre, c'est-à-dire que c'est, évidemment cette mesure n'est pas suffisante en elle-même. Elle suppose un accompagnement pédagogique et des évolutions des pratiques. C'est précisément ce que nous faisons. Mais ça ne se fait pas en un an, ça se fait sur plusieurs années. Et en plus, on a des locomotives, si je puis dire, parce qu'on a des classes qui, en effet, progressent spectaculairement aujourd'hui. Et donc ce que nous voulons, c'est une contagion positive des bonnes pratiques. C'est pourquoi on voit d'ailleurs que cette mesure est une mesure locomotive qui entraîne le système, non seulement quantitativement, mais qualitativement.
Monsieur le ministre, les familles sont bien souvent perdues face au système scolaire. Vous avez décidé une réforme ambitieuse du baccalauréat. Et dans cette réforme ambitieuse du baccalauréat, il y a une disparition des mathématiques du tronc commun. Or, là, l'inquiétude des familles et des enseignants est finalement l'idée selon laquelle on continuerait à sélectionner sur les mathématiques, mais cela serait fait de manière beaucoup plus perfide, sournoise, largement moins assumée qu'auparavant.
Bah, c'est absurde, si vous voulez. On sort justement de ce système-là. Ça fait des années, des dizaines d'années même, qu'on entend qu'il faut en finir avec la hiérarchisation artificielle qu'il y a entre SES et L. Et l'année où on le fait, on entend ce type de critiques. Les mathématiques ne sont pas du tout défavorisées par la réforme. On les trouve aux trois étages du système, en petite dose dans le tronc commun, c'est-à-dire pour tous les élèves, au travers de l'enseignement qui s'appelle enseignement scientifique, en dose importante dans l'enseignement de spécialité, 6 heures, 4 heures en première, 6 heures en terminale. Et puis après, dans les options, c'est la seule matière que vous avez deux fois, sous le titre maths complémentaire, 3 heures, ou maths experte, 3 heures. Ce qui fait qu'un élève peut se retrouver avec un peu de maths, ou 3 heures de maths, ou 6 heures de maths, ou 9 heures de maths. Alors, donc ça fait des parcours beaucoup plus personnalisés.
Je vous lis justement une lettre que j'ai reçue d'un professeur de mathématiques. Non, il n'y a pas de mathématiques dans l'enseignement scientifique de 2 heures prévues dans le tronc commun. Il s'agit simplement d'applications de formules et d'études de graphiques au service des sciences de la vie et de la terre. Un élève qui a besoin de faire des maths est donc obligé de prendre en première la spécialité maths. Si vous voulez, c'est ça à mon avis, aux familles. Je suis aussi père de famille, c'est compliqué d'orienter ses enfants, et on a l'impression que finalement, dans cette réforme, il y a des choses moins lisibles qu'auparavant, que ces maths n'en sont pas vraiment, enseignant.
Ce que dit cet enseignant n'est pas faux, mais c'est pas différent de ce que je disais précédemment. Il y a un tout petit peu de maths, je le dis, je l'assume parfaitement, dans l'enseignement scientifique. Mais auparavant, quand un étudiant faisait L, il ne faisait pas du tout de mathématiques. Donc, et puis vous avez des élèves, c'est vrai, qui, même si on peut le déplorer, ont une forme d'allergie aux maths, donc qui sont un peu contents en première de ne faire que cette petite dose de maths. Donc, le seul message, mais le premier des messages s'agissant de la réforme du baccalauréat, c'est de dire aux élèves, choisissez ce qui vous plaît, prenez les trois matières qui vous font envie. Pour la première fois, on est dans cette logique-là, au lieu d'être dans des logiques de code, dans des logiques non authentiques. Et quand on le fait, on trouve toujours des critiques de tous les côtés pour dire que c'est une régression. Moi, je vous fiche mon billet que si la situation du lycée, c'est celle que nous aurons dans 2 ou 3 ans, et que le projet consistait à revenir en arrière pour faire SESL, ben alors là vous auriez de vraies protestations. Parce que les élèves de seconde d'aujourd'hui, ils voient parfaitement les nouvelles libertés que nous avons créées. Et moi, je vois souvent des élèves de première ou de terminale qui me disent que leur seul regret, c'est de ne pas avoir vécu ça quand ils étaient élèves de seconde. On crée une liberté, mais magnifique, pour les élèves de seconde aujourd'hui. Donc toujours, on peut toujours voir X problèmes. Je ne dis pas que des problèmes, il n'y en a pas.
Je suis désolé, je vais évoquer principalement des problèmes en votre compagnie, monsieur le ministre. Alors, toujours parmi les inquiétudes suscitées par votre réforme, il y a les inquiétudes des lycées de zone rurale. Et là, par exemple, on explique que ces lycées viennent d'avoir la possibilité d'ouvrir un certain nombre de spécialités. Alors là, j'ai sous les yeux, par exemple, un lycée qui a la possibilité d'ouvrir 12 spécialités. Il y en a plus d'une cinquantaine en tout, et ce lycée dit qu'ils sont extrêmement surpris parce que ce choix semble assez arbitraire, il est parachuté, et ils se demandent ce que vont pouvoir faire les élèves qui ne prendraient pas ces 12 spécialités, monsieur le ministre.
Non mais, en général, un lycée a autour de 7 spécialités, plus, il peut s'en rajouter une ou deux jusqu'à 12, mais le nombre de spécialités ne dit pas forcément tout sur un lycée. Si vous prenez Henri IV à Paris, je crois qu'ils sont en dessous de 7.
Donc, mais Henri IV est proche d'autres lycées, ça n'est pas un lycée
sûr.
De zone rurale.
C'est vrai que d'être en zone urbaine a été jusqu'à aujourd'hui un avantage et continue à l'être pour toute une série de raisons. On ne peut pas tout compenser. En revanche, ce qui est exact, c'est que d'abord, les lycées ruraux souvent ont été dans des situations difficiles dans le passé, et personne ne s'en émeuvait d'ailleurs, parce que vous aviez par exemple beaucoup qui n'avaient que S et ES et pas L. Vous aviez donc beaucoup d'incomplétudes. Nous avons au contraire cherché à compenser ces problèmes-là au travers de la réforme. Donc, non seulement on n'a pas accentué les inégalités, mais on les a au contraire compensées avec une attention particulière aux lycées ruraux et aux lycées des quartiers périphériques.
Alors, là aussi, le fait de donner plus de poids au contrôle continu. J'entends bien que cela peut faire partie du choix des familles. Mais là, du coup, on se retrouve avec un bac qui va être profondément lié au lycée, finalement, qu'il a accordé. Est-ce que ça ne va pas créer de profondes disparités entre des lycées qui vont être perçus comme réputés et d'autres qui seront des lycées perçus comme moins bons ou moins, comment dirais-je, prestigieux ?
Non, de nouveau, la situation que vous décrivez, c'est plutôt celle dont nous cherchons à sortir. Elle existe déjà en partie. Quand les élèves se postulent pour l'enseignement supérieur, et il y a déjà un risque d'inégalité du fait du lycée où ils se trouvent. Nous voulons au contraire compenser cela. Le message sur le contrôle continu, c'est de redonner au contraire de la force au baccalauréat en disant ce qui compte, c'est pas tant l'effort qu'on a fourni sur une semaine au mois de juin de l'année de terminale, avec d'ailleurs parfois beaucoup un faible investissement des élèves sur le sujet, ou en tout cas du bachotage. Nous voulons au contraire un effort en continu, en première et en terminale. Les professeurs comprennent très bien cela parce que c'est leur intérêt, parce qu'ils savent que c'est aussi l'intérêt des élèves, que de faire un effort en continu. Nous avons bien sûr la discussion sur l'inégalité de notation qui pourrait en résulter. Nous l'avons eu au moment de l'élaboration de la réforme. C'est pourquoi ce contrôle continu est objectivé avec des copies anonymes, des correcteurs qui ne sont pas les professeurs, une banque nationale de sujets. Et d'une certaine façon, les lycées sont habitués à faire des bacs blancs aujourd'hui. C'est cette habitude-là, cette coutume-là, qui va nous permettre de formuler des notes, enfin de faire qu'il y ait des notes sur 2 années plutôt que de l'avoir sur une semaine.
Toujours parmi les raisons qui ont suscité beaucoup de défiance. Alors là, du côté des enseignants, il y a par exemple le fameux article 1er de votre projet de loi où il était question d'une exemplarité dans l'exercice de leur fonction des enseignants. Et là, on voit mal aujourd'hui ce qui relève du non-exemplarité des enseignants. Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre, que voulez-vous corriger au travers de cette formule ?
Alors là, on est typiquement dans ce qui était au début de nos discussions, c'est-à-dire que sur un article qui veut être un article de confiance, on met des interprétations de défiance, et bon, il faut en tenir compte. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai modifié l'article au moment de la discussion devant l'Assemblée nationale.
J'ai la suppression, parce que le problème, c'est que votre projet de loi est évidemment très technique.
Messages qui ne sont pas techniques du tout, qui sont vraiment de politique générale. L'article 1 est un article justement sur la confiance. Mais encore une fois, qui atterrit dans une société où aujourd'hui on veut à tout prix interpréter chaque chose en son inverse. D'ailleurs, c'est intéressant dans cet article 1 de noter qu'il a 2 phrases et qu'on ne parle toujours que de la première phrase. La première phrase a pratiquement pas de portée juridique, et pour garantir cela un petit peu à tout le monde,
Vous voulez évoquer la cohésion de la communauté éducative autour de la transmission de connaissances et de valeurs partagées. Donc, j'imagine que là, il est notamment question de la laïcité. C'est ça que vous avez derrière la tête.
Il y a ça, mais il y a aussi tout simplement le respect des professeurs. La deuxième phrase, elle a une portée juridique plus importante
que la
première.
Que je vais citer, pardonnez-moi, oui. Monsieur le ministre. Cela signifie pour les personnels une exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions et pour les familles le respect de l'institution scolaire dans ses principes comme dans son fonctionnement.
Ce respect de l'institution scolaire, vous n'avez pas lu l'article en entier, mais c'est le fait que, si on doit le faire en traduction simple, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un respect de la part des élèves et des parents d'élèves vis-à-vis des professeurs. Ce respect, nous savons que, malheureusement, parfois l'actualité nous montre qu'il n'a pas lieu. Donc cet article, c'est profondément un message de confiance aux professeurs, à la fois par le côté dignité, c'est-à-dire c'est l'exemplarité de l'institution, l'exemplarité des professeurs, ça n'a rien d'insultant. Vous savez, je suis un professeur, ça me gêne pas, et j'étais à ce titre un fonctionnaire, je sais parfaitement que j'ai des droits et des devoirs, et l'exemplarité non seulement ne me gêne pas, mais me donne de la dignité, donc je n'ai aucun problème avec ça. En second lieu, il est très important qu'on redonne de la force à la notion de respect du professeur par les élèves et par les parents d'élèves, et c'est ce que fait cet article de loi.
Pourquoi ne pas avoir supprimé ce mot qui fait tant débat, exemplarité, puisqu'il est mal compris aujourd'hui.
Quand il a inquiété parce qu'on a dit qu'on voulait museler les professeurs, qu'on voulait empêcher le droit d'expression. Pour rassurer, j'ai fait référence à la loi de 83, qui est vue comme une garantie par beaucoup, quant aux droits et devoirs d'expression des professeurs, et donc elle est explicitement dans cet article. On fait référence à la loi de 83, ce qui signifie très clairement, juridiquement, qu'il n'y a pas de changement. La liberté d'expression des professeurs sera exactement la même après et avant la loi. C'est pas le sujet de la liberté d'expression qui est concerné par cet article.
Monsieur le ministre, également, tout le monde est d'accord pour dire que une école qui fonctionne bien, ce sont des professeurs heureux et valorisés. Les familles comme les enseignants le pensent. Or, on ne voit pas de revalorisation des traitements des enseignants. Je parle de revalorisation significative. Comment expliquer cette absence, pour le coup ?
Parce que ça ne relève pas du tout de cette loi. Par contre, que nous y travaillons beaucoup, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il y a déjà des premiers pas qui ont été faits. Je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment pour les jeunes professeurs, pour l'entrée dans la carrière, mais même pour les autres. L'élément de base, si vous voulez, c'est qu'un professeur des écoles débutant touchera 1 000 euros de plus à la fin du quinquennat par an qu'en début de quinquennat. À ceci s'ajoutent des mesures catégorielles, par exemple le fait qu'en REP+, nous sommes en train de créer progressivement une prime qui est déjà de 1 000 euros depuis la rentrée dernière, pour tous les personnels du REP+, c'est 50 000 personnes, et nous y ajoutons 1 000 euros à la rentrée prochaine. Donc si vous travaillez en REP+, c'est 2 000 euros par an, c'est une somme assez conséquente. Nous augmentons aussi le nombre d'heures supplémentaires dans le second degré.
Alors c'est ça qui pose problème. Beaucoup de professeurs se plaignent de devoir faire des heures supplémentaires pour être mieux rémunérés. Des heures supplémentaires qui vont être imposées dans le minimum de 2 heures par enseignant.
Oui, ça a toujours été vrai que les heures supplémentaires vous permettaient d'être mieux rémunérés. Puis on entend ceux que ça gêne, mais il y a aussi beaucoup que ça ne gêne pas du tout et qui, au contraire, voient bien que c'est un élément permettant d'améliorer sa rémunération. D'autant plus que maintenant, depuis que le président de la République l'a annoncé, elles sont défiscalisées. Donc c'est une vraie rémunération supplémentaire pour les professeurs. Et c'est vrai que dans certains cas, mais ce sera dans les cas où c'est nécessaire, le chef d'établissement peut imposer 2 heures. C'était 1 heure auparavant. C'est certes quelque chose qui peut gêner quelques-uns, mais je pense que dans beaucoup de cas, ça va au contraire tout simplement permettre d'avoir une meilleure rémunération.
Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, on se retrouve dans quelques instants. J'ai invité une sociologue de l'éducation, Séverine Chauvel, qui évoquera avec vous les principes de cette réforme et avec qui on tentera de faire des comparaisons internationales pour voir si véritablement l'école française va particulièrement mal et si les mesures que vous proposez sont en phase avec ce qui se fait dans d'autres pays. Une réaction de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Bon, écoutez, on peut raisonner de plusieurs façons sur ce que vous venez de dire. D'abord, à contrario, quand ça n'est pas le cas, quand par exemple tous les députés votent toute la loi, ce qui a été d'ailleurs le cas pour ma loi, on dit majorité monolithique, on ne laisse pas de place à une façon de voir différente. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des nuances et des différences dans un mouvement politique, et c'est ce qui se passe de manière assez naturelle à En Marche. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut dire, c'est dans ce que vous dites, ça laisserait à croire que ceci est en quelque sorte pensé pour empêcher à une opposition de gouvernement d'exister. Je pense que c'est pas du tout le cas, que ce qui fait à une opposition de gouvernement d'être crédible, c'est d'être crédible elle-même. Elle n'a pas besoin du parti au pouvoir pour être crédible. Et je me désole comme vous d'une relative faiblesse aujourd'hui de l'opposition de droite ou de gauche de gouvernement au bénéfice d'oppositions radicales qui seraient une catastrophe pour le pays si elles accédaient au pouvoir, eh bien, je pense que la grande responsabilité de leur faible crédibilité aujourd'hui, c'est elle-même. Et ce n'est pas du tout les débats internes au mouvement qui est la majorité aujourd'hui qui est la cause de cette faible crédibilité.
Stéphane Robert.
Est-ce que vous pensez, comme Ismaël Emelien et David Amiel, dans leur livre Le programme tombe pas du ciel, ils théorisent la fin du clivage droite-gauche et puis le fait que finalement ces oppositions se sont en arrivent à se caricaturer elles-mêmes
J'ai réfléchi depuis très longtemps à ce sujet. C'est un clivage qui a une source historique très forte, la Révolution française, qui a des raisons d'être, mais qui est, si ce n'est en train de disparaître, en tout cas largement relativisé, et pas seulement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui est plutôt, de ce point de vue-là, un résultat qu'une cause. Et donc, il est évident qu'il faut raisonner autrement qu'au travers du clivage gauche-droite, même si ce clivage peut perdurer, mais avec d'autres clivages. Et c'est ça qui rend les choses un petit peu complexes, mais c'est ça qui est intéressant aussi d'un point de vue démocratique. Ça permet d'avoir des majorités d'idées sur certaines questions, et puis ça permet tout simplement d'avoir une démocratie vivante. Si on était toujours rivé sur un clivage né en 1789, je pense que ce serait pas forcément réjouissant. Et donc, oui, il y a d'autres clivages, on le voit sur l'Europe typiquement, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines.
Mais si on prend par exemple votre loi, Jean-Michel Blanquer, vous étiez avec le dédoublement des classes l'une des règles, l'une des lois ou l'un des alibis, alors chacun choisira le terme qu'il veut, pour dire qu'il y avait aussi dans le macronisme un souci pour des mesures de gauche, le dédoublement des classes, était perçu comme une loi de gauche. Et aujourd'hui, votre projet de loi, il froisse les enseignants et il passe pour être plutôt un projet de droite. Est-ce que ça ne tombe pas mal, justement ?
Non, mais c'est complète. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus faux que ce que vous venez de dire. Et c'est ça qui est dramatique. Je ne sais pas si cette loi est de gauche ou de droite. Ce que je sais, c'est qu'elle est profondément sociale. Beaucoup de mesures sont sociales. L'instruction obligatoire à 3 ans...
Donc elle est plutôt de gauche, généralement. L'idée qu'une loi est sociale l'a fait classer...
Mais non, mais justement, c'est là que ça renvoie à l'éditorial. C'est-à-dire que social, je ne sais pas si c'est synonyme de gauche. Ce que je sais, c'est que cette loi est profondément sociale.
On a quand même
sociale.
Une petite idée là-dessus.
Si vous voulez, le gaullisme, par exemple, s'est affirmé comme très social.
Il y avait des gaullistes de gauche.
Il y avait aussi des gaullistes de gauche. Mais justement, les choses sont plus. Je ne dis pas non plus que social, c'est pas de gauche. Je dis juste que les choses sont parfois plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et cette loi, et ça, je pourrais le défendre très fortement, elle est profondément sociale. L'instruction obligatoire à 3 ans, on a l'air d'oublier ce que ça signifie dans l'histoire de l'école. C'est extrêmement important. C'est social. Ce que je disais sur la visite médicale tout à l'heure, c'est profondément social et, permettez-moi de l'ajouter, concret. Parce qu'il ne s'agit pas d'être social dans les mots, il s'agit d'être très concret, de voir les conséquences de ce que l'on fait. Prenez la mesure de pré-recrutement des professeurs, qui a été totalement caricaturée ces derniers jours, où on dit on va demander à des étudiants de deuxième année d'enseigner. C'est totalement faux. C'est une mesure qui renoue avec une très belle
on
tradition.
On a vu des recrutements de vacataires qui étaient...
Mais justement, ça c'est la situation actuelle. Ce que nous voulons, c'est revivifier le vivier des enseignants et permettre que des futurs professeurs puissent se former progressivement. On n'a jamais dit qu'ils allaient faire cours alors qu'ils étaient en deuxième ou troisième année de licence. Nous n'avons jamais dit ça. C'est une mesure qui a été travaillée avec les syndicats pendant plusieurs mois. C'est une mesure qui va permettre, je le dis pour les auditeurs, à un étudiant qui aujourd'hui est en première année, qui sera en deuxième année à la rentrée prochaine, de gagner 700 euros par mois, cumulable avec une bourse. Et avec ça, de faire 8 heures pour aider les élèves à faire leurs devoirs, et pas du tout pour faire cours, et ainsi, premièrement, de se rémunérer, d'avoir donc des futurs professeurs venus de différents milieux sociaux, et surtout de pouvoir avoir un vivier qui s'élargit, des futurs professeurs, par exemple en sciences, où nous avons besoin d'élargir ce vivier. Donc, si vous voulez, et je ne prends que ces exemples-là, où nous avons sur le handicap, dans la loi, la base d'une véritable école inclusive, ce serait aussi l'objet de long développement. Bref, vous avez dans cette loi une dimension sociale qui est très forte, qui est un petit peu occultée par la nature du débat public de ces derniers jours.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'inviter Séverine Chauvel. Vous êtes sociologue de l'éducation. Séverine Chauvel, vous enseignez à l'université de Créteil. Pour avoir votre regard sur ce projet de loi, si vous deviez le qualifier avec vos mots, que diriez-vous de ce projet de loi ?
À première vue, cette réforme, elle paraît pragmatique, technique, mais quand on assemble toutes les pièces du puzzle et aussi quand on la met avec la loi pour la réforme du lycée à venir, on comprend en fait qu'il y a un modèle derrière, on le connaît ce modèle. Il y a une inspiration, en fait, clairement libérale. Pourquoi je dis ça? En fait, l'idée du modèle libéral en éducation, c'est qu'il y aurait un choix pour les parents de décider de leur école et pour les enseignants de sélectionner leurs élèves.
Qu'est-ce que ça veut dire libéral pour vous dans ce contexte-là?
Alors, c'est exactement ce qui était exprimé tout à l'heure dans l'idée de faites ce qu'il vous plaît, la liberté est magnifique, avec le choix d'options, par exemple, pour les lycées. On sait qu'en fait, les choix, ils se font sous contrainte, c'est-à-dire que ils vont être, si un élève, un enfant a quelques difficultés, que ce soit du comportement, que ce soit d'apprentissage, en fait, il ne sera pas choisi comme les autres, il n'aura pas les mêmes facilités. Les places sont limitées dans les options ou dans les filières ou dans certains établissements. Donc, changer d'établissement. Je pense là au lycée, ça se fera pas. Pour choisir une option, ça se fait pas de manière facile.
Mais ça veut dire pour qu'on comprenne bien, Séverine Chauvel, est-ce que ça signifie que les familles choisiront mal, certaines familles, celles qui ont le capital culturel le moins important, le capital social le plus faible, ou est-ce que ça veut dire que on va organiser la rareté de certaines options?
En fait, les solutions là qui sont préconisées, elles peuvent paraître de bon sens. Donner plus de poids au local, donner plus de liberté aux élèves. Mais en fait, au niveau global, ce que les recherches scientifiques montrent, c'est qu'on observe des effets inégalitaires. Parce qu'en fait, ça repose sur des analyses qui occultent des inégalités sociales préexistantes, notamment les inégalités territoriales. Et donc, c'est pas une réforme qui permettra de lutter efficacement contre les inégalités, mais au contraire, qui pourrait les aggraver. Il faut des mesures compensatoires fortes. Et là, ce qui a été proposé, et ça, c'est vraiment très intéressant sur la formation des enseignants, parce qu'on sait que, évidemment, les enseignants, plus ils ont une meilleure est leur formation, meilleure est la réussite des élèves. Donc ça, c'est vraiment décisif. Le dédoublement des CP, il faut effectivement voir que ce soit pas une mesure seulement sur une année, mais que ça renforce pas, non, ça augmente pas non plus les effectifs sur les autres années. On va quand même se retrouver avec des enseignants remplaçants de M2 qui n'ont pas été formés dans la discipline qui vont enseigner une discipline pour laquelle ils n'ont pas été formés.
Ça, je sais pas.
Alors c'est les titulaires de Master 2 qui ont le concours, et dans l'académie de Créteil par exemple, c'est 60% des Master 2 qui viennent d'autres formations et pas formation de sciences d'éducation, et on n'a rien pour l'instant sur la formation après le concours. Donc
il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Sandrine Chauvel. Sur le dernier point, vous venez de décrire la situation existante, pas ce que la réforme va faire, au contraire.
Sur le premier point, une mesure d'inspiration libérale, dit Séverine Chauvel, avec l'idée que le choix serait ce qui prime, alors qu'en réalité, les choix se font sous contrainte, monsieur le ministre.
Je connais cette critique, je crois qu'elle a été faite le lendemain du jour où je suis arrivé comme ministre. C'est-à-dire qu'on plaque des schémas idéologiques sur l'action. Entre parenthèses, j'ai écrit un livre vous m'avez invité un jour, dans lequel tout est dit de manière transparente. Donc pour tous ceux qui estiment qu'il y a un complot, qu'il y a quelque chose de pas dit derrière la loi, etc., je les invite tout simplement à lire ce que j'ai écrit, à quand même voir la cohérence d'ensemble des mesures. Elles n'ont pas du tout cette connotation. Alors là encore, libéral, c'est comme social, c'est des mots qui sont très chargés, on peut y mettre beaucoup de choses. Mais pardonnez-moi, mais dans le raisonnement que vous avez fait une espèce de raccourci qui est pas très rigoureux, puisque en gros vous avez dit que je préconisais la liberté des élèves, en effet, et de leur famille, c'est-à-dire qu'en seconde ils puissent faire des choix. Et vous avez dit du coup ça va accentuer les inégalités, parce que ça accentue les inégalités entre établissements, ce qui n'est absolument pas dans la réforme. Dans la réforme, au contraire, il y a l'idée de compenser les inégalités. Autrement dit, nous avons donné plus de moyens à des lycées périphériques ou à des lycées ruraux en comparaison aux lycées de centre-ville, justement. Donc la réforme est un moyen de compenser cela. Par ailleurs, s'il y a bien quelque chose qui était codifié sur le plan social, c'était le choix des séries. Et c'est en fin de seconde jusqu'à aujourd'hui qu'il y avait en effet des portes que l'on se fermait si l'on n'avait pas pris la série S. Alors qu'aujourd'hui, la nouvelle formule est une formule qui permet réellement de faire des choix correspondant à ses goûts. Et parce que ça correspond à des goûts, on va plus approfondir, donc les programmes peuvent être plus exigeants. Et ainsi, on veut hausser le niveau, et c'est en haussant le niveau qu'on va assurer plus d'égalité sociale. Mais aujourd'hui, notre but, c'est qu'il n'y ait pas une discipline, que ce soit maths ou une autre discipline, qui soit justement discriminante pour des raisons autres que la discipline elle-même. Et ça, je crois que c'est totalement incontestable quand on voit les contenus de la réforme. Donc je pense que c'est important de se prononcer sur les contenus de la réforme et pas sur des idées qu'on se fait sur les arrière-plans de la réforme.
Séverine Chauvel, votre point de vue là-dessus?
Alors, ce qu'on peut voir sur la réforme, c'est que ça renforce l'autonomie des établissements. Et là-dessus, ça risque de renforcer la mise en concurrence. Et en fait, on n'a rien sur la carte scolaire, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment un point très important. C'est celui de la mixité scolaire. Si, en fait, on agit sur l'offre seulement et la diversification de l'offre scolaire pour réduire les inégalités, on sait, et là, les recherches l'ont montré, que ça renforce la ségrégation et que ça va en fait favoriser les établissements les plus déjà favorisés, hein, et sauf si la politique de compensation est forte. Et dans cette loi, on n'a rien sur l'éducation prioritaire. Au contraire, en fait, on sait que déjà la situation existante dans la situation existante, il y a des établissements il y a une ségrégation scolaire qui est forte. La Cour des comptes avait montré que l'État donne plus à ceux qui ont déjà moins. Et donc, vous pensez qu'elle ne va pas être résolue.
Monsieur le ministre.
D'abord, premièrement, plusieurs points que vous mentionnez sont des points d'analyse du présent. Et précisément, nous essayons de porter remède à ces problèmes du présent.
Parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, en fait. Ouais, parce que cette logique-là, elle est à l'œuvre déjà depuis certaines années. Depuis plusieurs années. Il y a un ouvrage en 2010 de collègues, l'école française Les pièges de la concurrence, hein, qui montre, de Sylvain Broccolicchi et Choukri Benayed et Daniel Trancard, qui montre en fait comment l'autonomie des établissements renforce la ségrégation scolaire.
Alors, Jean-Michel Blanquer. D'abord, qu'il y ait un constat à faire sur les inégalités, sur ce point-là, on va être d'accord. Donc, la question est de savoir dans quelle mesure on réussit à y répondre. Dire qu'il n'y a rien sur la carte scolaire, sur la loi, vous n'avez pas tort. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la loi, et cette loi ne prétend certainement pas résoudre tous les sujets. Par contre, dans d'autres domaines, par d'autres réformes que celles qui sont dans la loi, nous visons à le faire. Par exemple, il y a en ce moment, on est sur le point d'avoir un rapport Azéma-Mathieu sur l'éducation prioritaire. Donc, dans quelques semaines, oui, sur ces sujets-là, nous allons avancer pour une éducation prioritaire plus juste. Par contre, sur l'éducation prioritaire, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Le dédoublement des classes de CP et CE1, c'est la mesure d'éducation prioritaire par excellence visant à lutter contre les inégalités à la racine, puisque pendant les premières années de la vie, et face au premier des enjeux, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter. Tous ceux qui enseignent à l'université aujourd'hui et qui voient le niveau de français de certains élèves qui arrivent en fonction des milieux sociaux en particulier,
elles
savent très bien de quoi je parle. Et au moment où je travaille à la racine sur ce sujet-là, je recueille son approbation sur ce point, au moment où je travaille...
Profondément
sur ce sujet, on fait semblant de ne pas voir que c'est ça qui est l'éléphant au milieu de la pièce et que j'essaye de traiter. Donc, si vous voulez, oui, avec le constat, la stratégie n'a jamais été de mettre en concurrence les établissements. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Bourg-en-Bresse il y a une semaine. Il y a 3 lycées à Bourg-en-Bresse qui coopéraient pas forcément beaucoup jusqu'à présent. La réforme du lycée fait qu'ils coopèrent les 3 ensemble. Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus prisé que l'autre, c'est vraisemblable, comme ça arrive souvent dans notre pays. Eh bien, demain, ces 3 lycées vont travailler davantage ensemble pour offrir ensemble les 12 spécialités. Et sur toute une série d'éléments permettent plus de progrès social, moins d'inégalités, parce que tout simplement plus d'offres pour tout le monde, plus de passerelles. Et c'est vrai, je l'assume complètement, plus de liberté pour le lycéen, et tant mieux. Mais cette liberté n'est pas synonyme d'inégalité, bien au contraire, puisque nous avons des mesures compensatoires pour accompagner aussi bien les établissements que les élèves.
Une réaction, Séverine Chauvel. Pourquoi réagissiez-vous autant quand il était question du dédoublement
alors,
des
classes ? La question du dédoublement des CP, ça concerne qui ? Ça concerne les classes donc, qui sont situées en éducation prioritaire, les enfants qui sont situés en éducation prioritaire, donc dans des zones où plus de la moitié des élèves sont issus de catégories populaires. Enfin, il y a plusieurs critères, mais en gros, c'est ça le critère principal. Donc, ça ne concerne pas tous les enfants qui sont, en fait...
Alors, c'est une bonne mesure, mais c'est une mesure insuffisante.
Donc, c'est une mesure insuffisante pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que déjà, il y a des problèmes de locaux qui se posent dans certains départements. Je pense à la Seine-Saint-Denis, où en fait, en CE1, ça n'a pas pu être développé. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ensuite, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, on a enlevé un dispositif qui s'appelait plus de maîtres que de classes. Donc du coup, il y a certaines classes qui sont surchargées pour la suite de la scolarité. Et la troisième raison.
On a créé les postes. Enfin, là, pardonnez-moi, vous égrenez, hein, mais il y a un contraste entre votre travail, ce que vous écrivez, qui est scientifiquement fondé, et là, les choses que vous venez d'égrener, qui sont ce qu'on voit sur des tracts, etc., mais qui sont juste pas exactes. C'est-à-dire que sur le dédoublement, c'est par des créations de postes que nous le réalisons. Le taux d'encadrement de toute l'école primaire en France, dans chaque département, à chaque rentrée, de 2017 à 2022, s'améliore. Alors, évidemment, il peut y avoir telle classe qui a un ou deux élèves de plus, ça arrive. Mais en moyenne, sur chaque département de France, a fortiori les départements ruraux, donc la théorie de déshabiller Pierre pour habiller Paul, qui est d'ailleurs utilisé aussi bien par la droite que par la gauche actuellement, la droite plutôt pour défendre le rural, la gauche plutôt pour défendre l'urbain, eh bien, c'est tout simplement pas exact. Encore une fois, ça peut être vrai dans un cas, il peut y avoir des exceptions, mais c'est globalement faux, tout simplement parce qu'il y a une priorité budgétaire à l'école primaire qui nous a permis de créer les postes pour financer cette politique.
Séverine Chauvel, une réaction.
Sur le fait que... Donc, cette mesure de dédoublement, donc la baisse des effectifs, elle concerne une classe, donc à un moment, donc le CP qui est effectivement, et là ça s'appuie aussi sur des travaux, est une classe importante, mais par la suite, les élèves se retrouvent dans un nombre suffisant. Donc en fait, il faut aussi penser à la suite du parcours, pas seulement le CP.
Comme vous le savez, c'est fondé sur... Vous venez de le dire d'ailleurs.
Et la question, c'est celle de la solidité de la formation des enseignants. Il y a vraiment... Ça reste... Donc il y a des mesures qui sont prises avec le changement des ESP mais par contre, sur la professionnalisation, en fait, vous avez dit effectivement que donc en licence 2, en licence 3, les étudiants qui sont dans ces dispositifs ne seront pas en responsabilité devant une classe, mais ils pourront les masters pourront faire des remplacements.
Non, c'est encore en discussion.
Voilà.
Ça.
Est-ce qu'ils sont seuls en classe ou pas ? Et ce dispositif-là existait avant, c'était les EAP. Étudiants, apprentis, professeurs.
Là, on va rentrer dans des mesures assez techniques. Monsieur le ministre, la liberté, c'est bien, mais il y a des sociologues, et là, je ne pense pas à des sociologues de gauche, je pense à des sociologues de droite. Je pense à Raymond Boudon, qui est un auteur que vous connaissez bien.
Je connais les sociologues de gauche et de droite.
Je voulais utiliser celui-ci parce qu'on ne peut pas l'accuser d'avoir été au cœur du pouvoir syndical dans l'éducation nationale. Et finalement, ce qu'il disait, lui, Raymond Boudon, c'est que finalement, si on laisse la liberté aux élèves et aux familles, parce que bien souvent ce sont les familles qui choisissent les formations, eh bien on défavorise ceux qui ont en quelque sorte la moindre connaissance du fonctionnement de l'école, tout simplement parce que ceux-ci n'arrivent pas à s'orienter. Est-ce que votre système n'est pas justement la porte ouverte vers ceux qui ont du mal à lire le système scolaire ?
Tout dépend, tout fait système, si vous voulez, comme dans ce que vient de dire Sandrine Chauvet sur le fait qu'il faut évidemment du qualitatif autour de la mesure de dédoublement, et c'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons. De la même façon, sur ce sujet-là, on ne peut pas être dans le simplisme, on ne peut pas dire vous créez des libertés, donc des inégalités. Pas plus que l'inverse d'ailleurs, tout dépend de ce qu'on fait pour accompagner cela.
Avant, le système était imparfait, mais on avait pris l'habitude de le dire.
Tout le monde s'accorde pour dire qu'il est imparfait, qu'il crée des inégalités. Les causes sont parfaitement identifiées, et dès qu'on se penche sur le sujet, on voit bien que les réponses qu'on a apportées sont pour lutter contre les inégalités. L'exemple type, c'est effectivement le choix en seconde. Le choix en seconde, aujourd'hui, c'est un choix standard. Jusqu'à présent, c'était un choix standard entre trois voies. Et là, pour le coup,
on comprenait bien ces trois voies.
Oui, on les comprenait bien, mais il y avait quand même des familles qui les comprenaient un peu plus que d'autres. Et puis vous aviez un côté standard qui faisait que, même si vous vouliez faire des études littéraires, si vous étiez un bon élève, vous faisiez S. Dans le nouveau système, il n'y a pas d'arrière-plan de code, si vous voulez. Vous dites à un élève, fais les matières qui te correspondent, qui te plaisent. Et tu peux ensuite tu peux les approfondir.
Ouais, malheureusement, le système scolaire ne fonctionne pas uniquement ainsi.
Ça conduit... Mais bien sûr que si. Alors bien sûr, c'est une dialectique ensuite entre évidemment l'élève et le professeur, et c'est ça qui est intéressant justement. C'est-à-dire qu'on se met à se poser en seconde des questions qui justement il faut se poser en seconde, non pas pour dire quel est le métier que vous avez envie de faire alors que vous avez 15 ans et que 90% des élèves ne le savent pas, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre se dire qu'est-ce qui me plaît dans la vie, à quoi je pense quand je pense à ce qu'il y a après le baccalauréat, c'est des questions qu'il est très sain de se poser dès la seconde parce qu'on se les pose dans les familles favorisées, on ne se les pose moins dans les familles défavorisées. Et donc le fait qu'il y ait ce questionnement à partir de la seconde fait partie des progrès implicites du nouveau système.
Séverine Chauvel, vous qui êtes sociologue de l'éducation, pourquoi le système français est-il à ce point un système qui reproduit des inégalités sociales ?
Alors, c'est un système qui, effectivement, on le sait depuis les années 50, reproduit des inégalités, mais il faut noter quand même quelques progrès hein, sur le fait qu'on a doublé le nombre d'élèves qui accèdent au baccalauréat, le fait que des élèves qui issus des classes populaires qui n'accédaient pas au baccalauréat y accèdent aujourd'hui.
Donc ça va mieux pour vous.
Alors, il y a un allongement en fait des scolarités, il y a une élévation générale du niveau, mais par contre, il reste des inégalités dans un système qui en fait fait des filières. Hein. Donc ça c'est le constat actuel, et je ne suis pas persuadée, vu les travaux qui ont été faits produits par les sciences sociales, que cette proposition de loi puisse réduire en fait les inégalités entre ces filières.
Une réaction, Jean-Michel Blanquer.
Je pense que le fait de donner un choix est premièrement plutôt toujours une bonne chose que de ne pas donner du choix, et les lycéens le vivent ainsi. Ensuite, la façon dont vous accompagnez ce choix est évidemment essentielle. L'année dernière, vous savez, on a dit la même chose sur Parcoursup. Hein. Si vous prenez un an en arrière le débat public sur Parcoursup, on avait exactement le même genre d'argument pour lutter contre Parcoursup. Résultat des courses, 30 000 étudiants de plus affectés, fin du tirage au sort, 20% d'élèves de bac pro affectés en BTS plutôt qu'à l'université, donc là où ils réussissent mieux. Ça, c'est vraiment social et c'est concret. Plus de 20% d'élèves de bac techno en IUT, là où ils vont réussir très bien aussi. Et donc ça aussi, c'est très social, c'est très concret. Plus d'élèves des académies de Créteil et de Versailles accédant à des établissements de Paris intramuros, alors que tout le monde prédisait le contraire avant, avec le même genre d'argumentation. Donc si vous voulez, moi je donne rendez-vous dans un an ou deux ou trois sur tous ces enjeux-là, mais au moment où on est justement en train de compenser les inégalités en donnant plus aux établissements qui ont besoin de plus, en leur créant de l'attractivité. Au moment où on donne plus de choix aux lycéens, on permet de mieux les accompagner, par exemple avec deux professeurs principaux en classe de terminale. C'est un petit peu paradoxal de se faire brandir les inégalités du passé pour lutter contre les mesures du présent.
Le rendez-vous est pris, Stéphane Robert.
Juste une petite remarque, moi j'ai bien écouté ce que disait Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, en termes de métaphore animalière, il a dit qu'il s'attaquait désormais à l'éléphant au milieu de la classe, qui est le niveau des élèves en français, c'est ce que vous avez dit, et plus au mammouth de Claude Allègre, voilà.
Ce qui est un progrès dans l'histoire.
Un mot, Séverine Chauvel.
Oui, sur la question du changement que ça va induire sur le métier des enseignants. Là, sur l'accompagnement dont vous parlez, dont Monsieur le ministre parle, pour l'orientation des choix dès la seconde, qui est très précoce en fait, et qui va être difficile de changer pour des raisons très concrètes d'organisation scolaire, les enseignants manquent de formation à l'accompagnement de ces choix. Et le métier change, puisque en fait, de quoi on parle pendant les conseils de classe beaucoup. Plutôt que des connaissances des pédagogies, c'est comment on sélectionne, comment on évalue, comment on oriente, alors qu'on n'a pas les moyens, les connaissances.
Mais justement, un petit mot de conclusion.
La réponse est dans la question. On voit bien que les évolutions du lycée vont permettre de progresser dans le sens souhaité. Par exemple, sur l'évolution de ce qu'est un conseil de classe, le professeur principal, c'est écrit depuis très longtemps dans les textes, a un rôle effectivement en matière d'orientation. Ça ne veut pas dire qu'il est omniscient sur le sujet. Ça veut dire que cette notion d'accompagnement de l'élève fait partie de notre responsabilité à tous en réalité, et notamment de l'équipe d'adultes qui entourent l'élève. Donc il est tout à fait bien qu'il y ait un cheminement beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, fait de tâtonnements, ce qui est normal, de la seconde à la terminale et au-delà, plutôt que d'avoir des espèces de trous, comme on l'a eu jusqu'à aujourd'hui, en fin de seconde, en fin de terminale, qui justement menaient aux inégalités que l'on déplore.
Séverine Chauvel, course au diplôme, qui sont les perdants ? Merci à vous, merci Jean-Michel Blanquer.